Les yeux au ciel. Les yeux au ciel avec Anne-Françoise Marie pour découvrir les merveilles des étoiles.
L'astronome dont j'aimerais vous parler aujourd'hui a grandement contribué à redéfinir notre place dans l'univers au début du XXe siècle. Son nom est très connu car il a été donné à un incroyable télescope spatial. Je vous propose aujourd'hui de vous raconter la vie d'Edwin Hubble. Edwin Powell Hubble est né le 20 novembre 1889 à Marshfield, dans le Missouri, aux États-Unis. Son père, John Powell Hubble, était un agent d'assurance et sa mère Virginia était une femme au foyer. Hubble est l'un des 7 enfants de la famille. En 1898, la famille déménage à Wheaton, dans l'Illinois, où Hubble a passé la majeure partie de son enfance. Dès son plus jeune âge, il montrait un vif intérêt pour la science et pour l'astronomie. Bien qu'il fût particulièrement actif aussi dans le domaine du sport, excellent notamment en athlétisme et en basketball. Hubble a fréquenté le Wheaton High School, où il s'est distingué à la fois par ses capacités académiques et ses prouesses sportives. Après avoir terminé ses études secondaires, il a obtenu une bourse pour l'université de Chicago, où il s'est inscrit en 1906. À l'université, Hubble a étudié les mathématiques, l'astronomie, en suivant les cours de l'astronome George Hale, qui allait plus tard jouer un rôle clé dans sa carrière. Hubble a obtenu son diplôme en 1910. Grâce à des brillants résultats académiques, il a été sélectionné comme boursier Rhodes, ce qui lui a permis de poursuivre ses études à l'université d'Oxford, en Angleterre. À Oxford, il a étudié le droit, obtenant son diplôme en 1912. Malgré cette formation en droit, Hubble n'a jamais abandonné son intérêt pour l'astronomie, cette passion qui allait bientôt reprendre le dessus. Après son retour d'Angleterre, Hubble a brièvement enseigné l'espagnol et la physique, au lycée de New Albany dans l'Indiana. Cependant, avec l'entrée des États-Unis dans la Première Guerre mondiale en 1917, il s'est enrôlé dans l'armée. Hubble a servi dans le 86e régiment d'infanterie, où il atteint le grade de major. Il a été déployé en France. Mais la guerre s'est terminée avant qu'il ne participe à des combats vraiment significatifs. Son service militaire a néanmoins renforcé son sens du devoir et de la discipline, des qualités qui allaient être précieuses dans sa carrière scientifique. Après la guerre, Hubble décide de retourner à sa passion première, pour l'astronomie. Il a rejoint l'université de Chicago pour des études de doctorat, travaillant à l'observatoire de Yerkes, sous la direction d'Edwin Frost. Sa thèse, achevée en 1917, portait sur les nébuleuses extragalactiques, un domaine qui allait devenir central dans ses recherches ultérieures. En 1919, Hubble a rejoint l'observatoire du Mont Wilson en Californie, un établissement équipé du plus grand télescope du monde à l'époque, un télescope Hooker de 2,50 m de diamètre. Cet instrument exceptionnel allait permettre à Hubble de faire des découvertes révolutionnaires. À cet observatoire du Mont Wilson, Hubble a commencé à étudier les nébuleuses spirales, qui étaient largement considérées comme des objets appartenant à notre galaxie, la Voie lactée. En 1924, il a utilisé le télescope Hooker pour observer la galaxie d'Andromède. Il a identifié des céphéides dans cette galaxie. Les céphéides sont des étoiles variables dont la luminosité varie de manière très régulière. En 1912, Henrietta Swan Leavitt avait découvert la relation entre leur période de variation et leur luminosité intrinsèque, ce qui permettait de calculer la distance de l'étoile. En mesurant la distance des céphéides dans Andromède, Hubble a découvert qu'elles étaient bien plus éloignées que toutes les étoiles de la Voie lactée, prouvant ainsi qu'Andromède était une galaxie distincte de la nôtre. Cette découverte a été publiée en 1925 et a transformé notre compréhension de l'univers, en établissant que notre galaxie n'était qu'une parmi tant d'autres dans un univers vraiment beaucoup plus vaste. Mais les découvertes majeures de Hubble ne s'arrêtent pas là. L'une des contributions les plus significatives de Hubble à l'astronomie, c'est la découverte de l'expansion de l'univers. En 1929, Hubble utilise les observations de décalage vers le rouge des galaxies effectuées par Vesto Slipher. Le principe du décalage vers le rouge est très simple. Plus un astre est en train de s'éloigner, plus son spectre a des raies d'émission et d'absorption décalées vers les grandes longueurs d'onde, c'est-à-dire vers le rouge. On peut facilement se rendre compte de ce phénomène sur Terre, car il a également lieu avec des ondes sonores. Vous avez déjà dû vous en rendre compte. Par exemple, quand un camion de pompiers passe à côté de vous, on entend le son qui change. C'est parce que la vitesse du camion modifie la façon dont les ondes se propagent. En remarquant que les objets lointains, que sont les galaxies, décalaient leur spectre vers le rouge, Hubble remarque donc qu'elles sont en mouvement par rapport à nous, comme le camion de pompiers qui s'éloigne. Hubble a formulé ce qui est aujourd'hui connu sous le nom de loi de Hubble. Cette loi stipule que la vitesse d'éloignement des galaxies est proportionnelle à leur distance à la Terre. En d'autres termes, plus une galaxie s'éloigne, plus elle s'éloigne rapidement de nous. Cette découverte est une confirmation cruciale de la théorie de l'expansion de l'univers proposée par Georges Lemaître et a jeté les bases de la cosmologie moderne. La constante de proportionnalité dans cette relation est connue sous le nom de constante de Hubble. C'est une mesure fondamentale en cosmologie. En plus de ses découvertes sur les distances et sur les vitesses des galaxies, Hubble a développé un système de classification des galaxies en fonction de leur forme. Il est connu sous le nom de séquence de Hubble ou diagramme en diapason. Il classe les galaxies en trois grandes catégories, elliptiques, spirales ou irrégulières. Les galaxies spirales sont elles-mêmes subdivisées en galaxies spirales normales et spirales barrées, en fonction de la présence ou non d'une barre centrale d'étoiles. Ce système de classification est encore largement utilisé aujourd'hui et a aidé à structurer notre compréhension de la diversité des formes galactiques. Tout au long de sa carrière, Hubble a reçu de nombreuses distinctions pour ses contributions à l'astronomie. Parmi les plus prestigieuses, on compte la médaille d'or de la Royal Astronomical Society en 1935, la médaille Bruce de l'Observatoire de Lick en 1938. En 1946, il a reçu la médaille Franklin en reconnaissance de ses travaux révolutionnaires sur la nature de l'univers. L'héritage d'Edwin Hubble perdure non seulement à travers ses découvertes, mais aussi à travers les instruments et les projets qui portent son nom. Le télescope spatial Hubble, lancé par la NASA en 1990, a été nommé en son honneur. Ce télescope spatial conçu par la NASA avec une participation de l'Agence spatiale européenne est opérationnel depuis 1990. Son miroir de grande taille, 2,4 mètres de diamètre, lui permet de restituer des images avec une résolution angulaire inférieure à 1/10 de seconde d'arc. Ce qui veut dire que sur les images produites par Hubble, on peut différencier deux objets à une distance d'1/10 de seconde d'arc. Le télescope Hubble possède des imageurs et des spectroscopes dans l'infrarouge proche et dans l'ultraviolet, lui permettant de surclasser pour de nombreux types d'observations les instruments au sol les plus puissants. Instruments au sol qui sont handicapés par la présence de l'atmosphère terrestre. Les données collectées par Hubble ont contribué à des découvertes de grande portée dans le domaine de l'astrophysique. Par exemple, la mesure du taux de l'expansion de l'univers, la confirmation de trous noirs supermassifs au centre des galaxies spirales, l'existence de matière noire, d'énergie noire. Au travers de plus de 15 000 citations dans des articles scientifiques et 120 gigas d'images transmises chaque jour vers le sol. Le développement du télescope Hubble démarre dans les années 1970. Cependant, des problèmes de financement, de mise au point technique, la destruction de la navette Challenger dont je vous ai parlé récemment, repoussent le lancement du télescope jusqu'en 1990. Hubble, c'est un très impressionnant télescope orbital de 13 mètres de long, 4 mètres de large, une fois ses panneaux déployés. Il est constitué d'une partie optique avec un miroir principal de 2,40 m, qui a été usiné avec une précision de seulement 10 nanomètres. Derrière cette partie optique se trouvent des instruments scientifiques pour la mission. 4 capteurs adaptés à différents domaines astronomiques. Hubble voit dans des domaines de fréquences plus importantes que l'œil humain, car il voit en infrarouge et aussi en ultraviolet. Il a aussi un pointeur d'étoiles qui lui permet de rester verrouillé sur une cible. Et enfin, on y trouve aussi le matériel qui permet de se stabiliser, un ordinateur de bord, de quoi transmettre ses données. Jusqu'en 1999, elles étaient dupliquées au sein même de Hubble sur des bandes magnétiques. Ce très gros télescope de 11 tonnes a pu voir le jour grâce à une contribution de la toute jeune Agence spatiale européenne à la fin des années 70. Il a été emmené en orbite le 24 avril 1990 au sein de la large soute de la navette spatiale Discovery. Il entrait en service un mois plus tard. En réalité, Hubble voit flou. Malgré la précision incroyable utilisée lors de sa fabrication, quelques semaines après la mise en service, les équipes au sol doivent se rendre à l'évidence. Il y a un gros problème. Impossible de faire le point correctement sur des sources de lumière importantes. Il y a des artefacts sur les images. Une grande enquête commence, et là, catastrophe, on se rend compte que le miroir construit par Perkin Elmer, à grands frais, est faussé. En fait, il se trouve qu'un instrument de calibration utilisé pour usiner ce miroir souffrait d'une erreur. En 1992, les médias ne se privent pas de parler de Hubble comme d'un véritable fiasco. Un grand nombre de photographies de l'univers ont pu être prises. Elles ne sont pas toutes ratées. Mais celles impliquant des sources de lumière distantes sont floues, la faute à 22 micromètres d'erreur. Pire que ça, le miroir de Hubble ne peut pas être changé, c'est la pièce principale. Certains plans évoquent un retour du télescope via la navette sur Terre, voire la fabrication d'une réplique. Mais les chercheurs vont persévérer, aidés par des équipes d'ingénieurs. On ne peut pas corriger le problème ? Eh bien très bien, on va annuler l'erreur sur les instruments de mesure. C'est ce qui est réalisé en 1993 lors de la première mission de service pour Hubble. Le capteur principal est remplacé par un autre, incluant la déformation. Tandis qu'un instrument, appelé le COSTAR, utilise deux miroirs secondaires pour supprimer le défaut à destination des autres instruments d'Hubble. Ce qui est amusant, c'est d'entendre dire que Hubble a été réparé, alors qu'en fait c'est l'inverse. Tous les instruments ont été déréglés pour prendre en compte le défaut et l'annuler. Quatre autres missions, en 97, 99, 2002 et 2009, permettent de remplacer et d'améliorer quasiment tous les instruments, pour qu'ils puissent rester à la pointe des découvertes astrophysiques au début du XXIe siècle. La dernière mission, STS-125, qui normalement n'aurait pas dû avoir lieu après la catastrophe de Columbia, a permis de donner un potentiel maximum au vieillissant télescope, en remplaçant notamment les six roues gyroscopiques qui lui permettent de s'orienter très précisément. Pour économiser leur potentiel, seuls deux sont utilisés à la fois. En fait, tout ça, ça devrait permettre au télescope Hubble de fonctionner quelques années de plus, sans doute jusqu'à 2030. Le télescope Hubble est un instrument d'une incroyable souplesse d'utilisation. En 30 ans, il a été utilisé pour énormément d'études différentes. Dans notre système solaire, par exemple, il a pu observer des astéroïdes proches de la Terre, aussi toutes les planètes, sauf Mercure, les nuages de Jupiter, notamment l'impact avec la comète Shoemaker. Il a pu observer les lunes de Jupiter, les geysers d'Encelade autour de Saturne, les tempêtes sur Uranus, sur Neptune. Il a pu découvrir 4 des 5 lunes de Pluton et d'Arrokoth, l'objet le plus lointain jamais survolé par une sonde. Hubble est aussi impliqué dans la découverte de la plupart des planètes naines de la ceinture de Kuiper et il chasse régulièrement la potentielle planète 9. Mais Hubble, ce sont aussi d'extraordinaires images d'étoiles voisines, de nuages de gaz, de supernovas, de pouponnières d'étoiles, de galaxies. Grâce au cliché que l'on appelle le champ profond de Hubble. Hubble, ce sont des données qui ont été indispensables pour estimer l'âge de l'univers, son expansion, l'action des trous noirs supermassifs, la masse, la taille de la Voie lactée, ou encore les effets de lentilles gravitationnelles. Et puis ce sont bien entendu des images d'une saisissante beauté qui ont su inspirer génération après génération des jeunes et des moins jeunes, scientifiques ou simples observateurs.